Ivanhoé, chapitre 23. L'appartement dans lequel Lady Rowena avait été introduite était décoré avec magnificence, mais sans goût. On pouvait considérer le choix de cette chambre, destinée à la belle Saxonne, comme une marque particulière de respect qu'on n'avait pas eue pour les autres prisonniers. Mais la femme de Front de Bœuf, pour laquelle elle avait été originellement meublée, était morte depuis longtemps, et la négligence et la vétusté avaient endommagé le petit nombre d'ornements dont son goût l'avait embellie. La tapisserie pendait le long des murs en beaucoup d'endroits, tandis que dans d'autres, elle était ternie et flétrie par les rayons du soleil, ou déchirée et fanée par le temps. Cependant, si délabré qu'il fût, c'était l'appartement du château qu'on avait jugé le plus digne de recevoir l'héritière saxonne, et on la laissa y méditer sur son sort jusqu'à ce que les acteurs de ce drame criminel se fussent distribués les différents rôles que chacun d'eux y devait remplir. Cette distribution avait été réglée dans un conseil tenu par Front de Bœuf, de Brassy et le Templier, où, après une longue et vive discussion relative aux différents avantages que chacun voulait se ménager pour sa part individuelle dans cette entreprise audacieuse, ils avaient enfin fixé le sort de leur malheureux prisonnier. Ce fut donc vers l'heure de midi que De Brassy, au profit duquel on avait d'abord organisé l'expédition, se présenta pour poursuivre ses desseins sur la main et la fortune de Lady Rowena. Tout le temps n'avait pas été entièrement consacré à tenir ce conseil entre les complices, car De Brassy avait trouvé assez de loisirs pour se parer avec toute la mignardise de cette époque. Il s'était défait de son pourpoint vert et de son masque, ses cheveux longs et abondants avaient été dressés à tomber en boucles élégantes sur un manteau garni de riches fourrures. Sa barbe était fraîchement rasée, son habit descendait jusqu'à mi-jambe, et la ceinture qui le ceignait et qui, en même temps, supportait sa lourde épée, était brodée en relief avec des ornements d'or. Nous avons déjà parlé de la mode excentrique des souliers de cette époque. Les pointes de ceux que portait Maurice de Brassy auraient pu concourir pour le prix de l'extravagance avec les plus bizarres, car elles étaient tournées et entortillées comme les cornes d'un bélier. Tel était l'ajustement d'un petit maître de ce temps-là, et dans cette occasion, cette toilette était encore rehaussée par la beauté personnelle et le noble maintien du chevalier, dont les manières participaient également de la grâce d'un courtisan et de la franchise d'un soldat. Il salua Rowena en ôtant sa toque de velours garnie d'une épingle d'or, représentant Saint-Michel foulant aux pieds le prince du mal. Et du même geste, il indiqua doucement un siège à la dame. Comme elle persistait à rester debout, le chevalier déganta sa main droite et fit un mouvement pour l'y conduire. Mais Rowena repoussa dédaigneusement l'invitation et dit « Si je suis en présence de mon geôlier, messire chevalier, et les circonstances ne me permettent pas de penser autrement, il sied mieux à une prisonnière de rester debout, jusqu'à ce qu'elle sache le sort qui l'attend. « Hélas, belle Rowena, répondit De Brassy, vous êtes en présence de votre captif et non de votre geôlier, et c'est de vos beaux yeux que De Brassy doit recevoir l'arrêt que vous-même vous attendez de lui. « Je ne vous connais pas, messire, dit la dame, se redressant avec toute la fierté du rang et de la beauté offensée. « Je ne vous connais pas. Et la familiarité insolente avec laquelle vous me parlez le langage d'un troubadour ne saurait servir d'excuse à la violence d'un brigand. « Belle Rowena, répondit De Brassy sur le même ton, c'est à vous, à vos propres charmes, qu'il faut attribuer tout ce que j'ai fait, ce qui a pu dépasser le respect qui est dû à celle que j'ai choisie pour souveraine de mon cœur, pour l'aimant de mes yeux. » « Je vous répète, messire chevalier, que je ne vous connais pas, et qu'aucun homme, ayant le droit de porter la chaîne et les éperons, ne devrait ainsi offenser par sa présence une dame sans protection. »« Que vous ne me connaissiez pas, dit de Bracy, c'est en effet un malheur pour moi. Cependant, laissez-moi espérer que le nom de Bracy a déjà été prononcé devant vous, lorsque les ménestrels ou les héros ont eu à louer les actions de la chevalerie, soit dans la lice, soit sur les champs de bataille. Laissez donc le soin de vos louanges aux héros et aux ménestrels, messire chevalier, répondit Rowena. Elles conviennent mieux à leur bouche qu'à la vôtre. Dites-moi lequel d'entre eux devra célébrer, dans ses chansons ou dans ses chroniques, la conquête mémorable de cette nuit sur un vieillard suivi de quelques paysans timides. Célébrer votre butin, une malheureuse jeune fille transportée contre son gré au château d'un bandit.
Vous êtes injuste, Lady Rowena, dit le chevalier en se mordant les lèvres de confusion et en prenant un ton qui lui était plus naturel que celui de cette galanterie affectée qu'il avait d'abord adoptée.
À l'abri de la passion vous-même, vous ne voulez admettre aucune excuse pour le délire de celle d'un autre, bien que ce soit votre beauté qui l'ait causée.
Je vous prie, messire chevalier, dit Rowena,
d'abjurer un langage si communément employé par les ménestrels vagabonds. Il se trouve déplacé dans la bouche des chevaliers et des nobles. Certainement, vous me forcez à m'asseoir, puisque vous entamez un sujet si vulgaire, que le premier venu en a une provision qui pourrait durer jusqu'à Noël.
Fière damoiselle, dit de Bracy, irrité de voir que son style galant ne lui attirait que du mépris.
Fière damoiselle, on te rendra orgueil pour orgueil. Sache donc que j'ai soutenu mes prétentions à ta main de la manière qui convenait le mieux à ton caractère. Mais il paraît que tu préfères être courtisée avec l'arc et la hache plutôt qu'avec des phrases polies et avec la langue de la courtoisie.
La langue de la courtoisie, reprit Rowena, quand on l'emploie pour cacher la grossièreté des actions, ressemble à la ceinture d'un chevalier qui ceint la taille d'un vil manant. Je ne m'étonne point que la contrainte ait l'air de vous gêner. Il vaudrait mieux pour votre honneur avoir conservé la voix et le langage d'un bandit que de voiler vos projets sous l'affectation du langage et des manières d'un gentilhomme.
« Vous me donnez un bon conseil, madame, dit le Normand. Et dans le langage hardi qui justifie le mieux les actions téméraires, je vous dis que vous ne quitterez ce château qu'avec le titre de femme de Maurice de Bracy. Je n'ai pas l'habitude d'être déçue dans mes entreprises, et un seigneur normand n'a pas besoin de justifier scrupuleusement sa conduite à la dame saxonne qui l'honore de l'offre de sa main. Vous êtes fière, Rowena, et vous n'en êtes que plus digne d'être ma femme. Par quel autre moyen pourriez-vous être portée aux honneurs et au premier rang si ce n'est par mon alliance ? Sans elle, comment sortirez-vous de l'enceinte vulgaire d'une grange où les Saxons logent avec les pourceaux qui forment leur richesse ? Pour prendre votre place, pour être honoré comme vous méritez de l'être et comme vous le serez parmi tout ce qu'il y a en Angleterre de distingué par la beauté ou de grand par la puissance.
Messire chevalier, répondit Rowena, la grange que vous méprisez a été mon abri depuis l'enfance et, croyez-moi, quand je la quitterai, si jamais ce jour arrive, ce sera pour suivre une personne qui n'aura pas appris à mépriser l'habitation et les mœurs dans lesquelles j'ai été élevée.
Je devine ce que vous voulez dire, madame, reprit de Bracy, bien que vous puissiez penser que votre langage soit chose trop obscure pour mon intelligence. Mais ne vous bercez pas de l'espérance que Richard Cœur de Lion reprenne jamais son trône. Et croyez encore moins que Wilfrid d'Ivanhoé, son favori, vous conduise jamais au pied de ce trône pour y être reçu comme sa fiancée. Un autre prétendant pourrait ressentir de la jalousie en touchant cette corde, mais ma ferme volonté ne saurait être influencée par une passion puérile et sans espoir. Sachez donc, madame, que ce rival est en mon pouvoir. Et qu'il ne tient qu'à moi de trahir le secret de sa présence au château de Front de Bœuf, dont la jalousie lui serait plus fatale que la mienne.
Wilfrid ici ? Dit Rowena dédaigneusement. Cela est aussi vrai que Front de Bœuf est son rival. De Bracy la regarda fixement pendant quelques instants.
« Tu l'ignorais donc ?» lui dit-il. « Tu ne savais donc pas que Wilfrid d'Ivanhoé a voyagé dans la litière du Juif ?» Voiture bien digne en vérité d'un croisé dont le bras vaillant devait conquérir le Saint-Sépulcre. »
Et il se mit à rire dédaigneusement.
« Et s'il est ici ?» demanda Rowena, s'efforçant de voiler ses craintes sous un ton d'indifférence. « En quoi est-il le rival de Front de Bœuf ? Ou qu'a-t-il à craindre de plus qu'un court emprisonnement et le paiement d'une rançon honorable, selon les lois de la chevalerie ?»
Rowena, dit de Bracy,
toi aussi, serais-tu tombé dans l'erreur commune de ton sexe, qui pense qu'il n'y a d'autre rivalité que celle qui est produite par vos charmes? Ne sais-tu pas qu'il y a la jalousie de l'ambition et de la richesse, aussi bien que la jalousie de l'amour, et que Front de Bœuf repoussera de son chemin celui qui met obstacle à ses prétentions à la belle baronne d'Ivanhoé? Aussi vivement, aussi ardemment, et avec aussi peu de scrupules que si cet homme lui était préféré par quelque demoiselle aux yeux bleus.
Mais daigne seulement sourire à mes vœux, Lady Rowena, et le champion blessé n'aura rien à craindre de Front de Bœuf. Sinon, tu pourras le pleurer, car il est entre les mains de celui qui n'a jamais connu la compassion.
Sauvez-le, pour l'amour du ciel, dit Rowena, dont la fermeté fléchissait sous la terreur qu'elle ressentait pour le sort réservé à son amant.
« Je le puis, je le veux, c'est mon intention, » reprit de Bracy.
« Car si Rowena consent à devenir la fiancée de de Bracy, qui osera porter la main sur son parent, le fils de son tuteur, l'ami de son enfance? Mais ton amour doit être le prix de ma protection. Je ne suis pas assez romanesque, assez sot pour contribuer à la fortune ou empêcher le malheur de l'homme qui pourra devenir un obstacle insurmontable entre moi et mes désirs. Emploie ton influence sur moi, dans le but de ton salut, et il est sauvé. Refuse d'en faire usage, Wilfrid meurt. Toi-même, tu n'en seras pas moins privé de la liberté.
Ton langage, répondit Rowena, laisse percer à travers son indifférente franchise des sentiments qu'on ne peut concilier avec les menaces qu'il semble renfermer. Je ne veux pas croire que ton intention soit aussi méchante ou ton pouvoir aussi grand.
Berce-toi donc de cette croyance, dit de Bracy, jusqu'à ce que le temps en ait prouvé la fausseté. Ton amant gît blessé dans ce château, ton amant préféré. Il est une barrière entre Front de Bœuf et cette chose que Front de Bœuf préfère à l'ambition et à la beauté. Un coup de poignard ou de javelot suffit pour étouffer à jamais son opposition. Il y a plus. Si Front de Bœuf craignait de ne pouvoir justifier un crime si manifeste, que le médecin lui administre seulement une boisson contraire, que le valet ou la garde malade qui le soigne enlève seulement l'oreiller de dessous sa tête, et Wilfrid, dans son état de santé, périra par une hémorragie.
Cédric aussi.
Et Cédric aussi ? S'écria Rowena en répétant ces paroles. Mon noble, mon généreux tuteur, j'ai mérité le mal qui m'arrive pour avoir oublié son sort, même dans celui de son fils.
Le sort de Cédric dépend aussi de ta détermination, dit de Bracy. Et je te laisse y réfléchir. »
Jusqu'ici, Rowena avait soutenu son rôle pendant cette scène pénible avec un courage inébranlable. Mais elle n'avait pas considéré le danger comme sérieux et imminent. Son naturel était celui que les physionomistes attribuent aux personnes blondes, timides et paisibles. Mais elle avait été altérée et, pour ainsi dire, endurcie par les vicissitudes de son éducation. Accoutumée à voir les volontés de tous, même celle de Cédric, assez arbitraire avec les autres, céder à ses désirs, elle avait acquis cette espèce de courage, de confiance en soi, qui provient de la déférence habituelle et constante du cercle qui nous entoure. À peine pouvait-elle concevoir qu'on résistât à sa volonté,
et bien moins encore qu'on la traita avec une complète indifférence. Sa hauteur et son habitude de supériorité étaient donc un caractère d'emprunt couvrant celui qui lui était naturel et qu'elle ne put soutenir quand ses yeux s'ouvrirent sur toute l'étendue de son propre danger, ainsi que sur celui de son amant et de son tuteur. Et quand elle vit que sa volonté, dont la moindre expression avait l'habitude de commander le respect et l'attention, était combattue par celle d'un homme d'un caractère fort, fier et résolu, qui connaissait ses avantages et voulait s'en prévaloir, elle se courba devant cet homme. Après avoir jeté les yeux autour d'elle, comme pour chercher le secours qu'elle ne trouvait nulle part, et après quelques exclamations entrecoupées, elle leva les mains au ciel, et ne pouvant maîtriser davantage son dépit et son chagrin, elle fondit en larmes. Il était impossible de voir une créature si belle réduite à une pareille extrémité sans ressentir un vif intérêt. Et De Bracy n'y resta pas insensible, bien qu'il fût encore plus embarrassé que touché. Il s'était à la vérité trop avancé pour reculer. Et cependant, dans l'état où se trouvait Rowena, on ne pouvait plus avoir d'action sur elle, ni par des raisonnements, ni par des menaces. Il parcourut la salle de long en large, tantôt en exhortant vainement la jeune fille terrifiée à se calmer, tantôt hésitant sur la conduite qu'il devait adopter. « Si, pensait-il en lui-même, je me laisse toucher par les larmes et le chagrin de cet enfant déploré, qui gagnerais-je, sinon le sacrifice de ses espérances pour l'accomplissement desquelles j'ai tant risqué, et les railleries du prince Jean et celles de ses joyeux amis ?» Et cependant, ajouta-t-il intérieurement, je sais que je ne suis pas fait pour le rôle que je joue. Je ne puis regarder de sang-froid cette belle figure altérée par la douleur et ses yeux baignés de larmes. Plût à Dieu qu'elle eût persisté dans sa fierté première, ou que j'eusse moi-même un cœur plus dur, trois fois trempé comme celui de Front de Bœuf. Agité par ses pensées, il ne put que prier la malheureuse Rowena de se consoler, en l'assurant qu'elle n'avait aucune raison de s'abandonner à l'excès de désespoir où elle s'était plongée. Mais, au milieu de cet essai de consolation, De Bracy fut interrompu par le son du cor, au bruit sonore et retentissant, qui avait en même temps alarmé les autres habitants du château en interrompant leurs différents projets d'avarice et de licence. De tous, peut-être De Bracy fut celui qui regretta le moins cette interruption, car son entrevue avec Lady Rowena était arrivée à un point où il trouvait aussi difficile d'abandonner son entreprise que de la poursuivre. Il nous semble qu'il ne sera pas inutile d'offrir ici quelques preuves plus positives que les incidents frivoles d'un roman pour justifier le triste tableau de mœurs que nous venons de soumettre au lecteur. Il est affligeant de penser que ces vaillants barons, dont la ferme résistance contre la couronne a donné naissance aux libertés de l'Angleterre, aient été eux-mêmes de si terribles oppresseurs, et qu'ils soient rendus coupables d'excès contraires, non seulement aux lois anglaises, mais aussi à celles de la nature humaine. Mais, hélas, nous n'avons qu'à extraire de l'ouvrage du laborieux historien Henry un de ces nombreux passages qu'il a tirés des historiens contemporains, pour prouver que la fiction elle-même peut à peine atteindre à la sombre réalité des horreurs de l'époque. La description, donnée par l'auteur de « La chronique saxonne », des cruautés exercées sous le règne du roi Étienne par les grands barons et les seigneurs des châteaux, qui étaient tous normands, nous offre une preuve irrésistible des excès dont ils étaient capables quand leur passion était en jeu. Ils opprimèrent horriblement le pauvre peuple en lui faisant bâtir des châteaux, et quand ils furent bâtis, ils les remplirent de méchants hommes, ou plutôt de démons, qui s'emparaient à la fois des hommes et des femmes qu'ils croyaient posséder de l'argent, les jetaient en prison, et leur faisait endurer des tortures plus cruelles que jamais les martyrs n'en supportèrent. Ils étouffaient les uns dans la fange, suspendaient les autres par les pieds, par la tête ou par les pouces, allumant des brasiers au-dessous d'eux. Ils serraient la tête à des malheureux avec des cordes pleines de nœuds jusqu'à ce qu'ils eussent pénétré dans leur cerveau. D'autres étaient jetés dans des cachots remplis de serpents, de couleuvres et de crapauds. Mais il serait cruel d'infliger au lecteur la peine de parcourir le reste de cette description. Comme un autre exemple de ces fruits amers de la conquête, et peut-être le plus fort qu'on puisse citer, il faut rappeler que la princesse Mathilde, quoique fille du roi d'Écosse et plus tard reine d'Angleterre, la princesse Mathilde, nièce d'Edgar Atteling et mère de l'impératrice d'Allemagne, fille, femme et mère de monarque, fut obligée, pendant son premier séjour en Angleterre pour y faire son éducation, de prendre le voile comme le seul moyen d'échapper aux poursuites libertines des seigneurs normands. Elle fit valoir cette excuse devant un grand concile du clergé d'Angleterre comme la seule raison qu'elle avait eue de prendre l'habit religieux. Le clergé réuni reconnut la force du plaidoyer ainsi que la notoriété des circonstances sur lesquelles il se fondait, donnant par là un témoignage incontestable et très remarquable de la réalité de cette honteuse licence dont ce siècle fut souillé. C'était un fait reconnu de tout le monde, dit encore la chronique, que, après la conquête du roi Guillaume, ses partisans normands, exaltés par une si grande victoire, ne connurent d'autres lois que leurs passions effrénées, et que non seulement ils dépouillèrent les Saxons, conquis de leurs terres et de leurs biens, mais qu'ils outragèrent leurs femmes et leurs filles avec la licence la plus brutale. De là vint l'usage, pour les matrones et les jeunes filles nobles, de prendre le voile et de se réfugier dans les couvents, non pas parce qu'elles y étaient appelées par la vocation, mais seulement pour préserver leur honneur de la méchanceté sans frein de l'homme. Tels furent ces temps licencieux, dénoncés par la déclaration publique du clergé réuni, rapportée par l'historien Edmer. Et nous n'avons besoin d'y rien ajouter pour justifier la vraisemblance des scènes dont nous venons de donner les détails, et à propos desquelles nous allons en donner encore de nouveaux, d'après l'autorité plus apocryphe du manuscrit de Wardour. Chapitre 24. Pendant que les scènes que nous venons de décrire se passaient dans l'autre partie du château, la juive Rebecca attendait son sort dans une tourelle éloignée et isolée. Elle y avait été conduite par deux de ses ravisseurs déguisés, et quand on l'eut jetée dans sa cellule, elle se trouva en présence d'une vieille sibylle qui grommelait un chant saxon, comme pour battre la mesure de la danse tournoyante que traçait son fuseau. La sorcière leva la tête à l'entrée de Rebecca et regarda la belle juive avec cette envie méchante dont la vieillesse et la laideur, unies à de mauvais penchants, ont coutume de gratifier la jeunesse et la beauté. « Il faut te lever et t'en aller, vieux cri-cri de la maison !» dit un des faux archers. « Notre noble maître l'ordonne. Tu vas quitter cette chambre pour faire place à une locataire plus belle. »
« Oui, grogna la sorcière, c'est ainsi que l'on récompense les services. J'ai connu le temps où l'une de mes paroles aurait jeté le meilleur homme d'armes d'entre vous autres hors de selle et hors de service, et maintenant il faut que je me lève et que je m'en aille sur l'ordre d'un valet d'écurie comme toi. »
« Bonne dame d'Urfried, dit l'autre homme, ne reste pas ici à discuter, mais lève-toi et pars. Les ordres du maître, il faut les écouter avec une oreille prompte. Tu as eu ton jour, vieille dame, mais à présent ton soleil est couché depuis longtemps. Tu es maintenant le véritable emblème d'un vieux cheval de bataille qu'on renvoie à la bruyère. Tu as bondi et galopé jadis, mais maintenant tu es réduite à marcher au pas. Allons, pars et décampe. »
Que les mauvais présages vous poursuivent l'un et l'autre, dit la vieille dame. Et puissiez-vous mourir dans un chenil? Puisse le vieux démon Zernebock m'arracher membre par membre si je quitte ma propre cellule avant d'avoir filé le chanvre de ma quenouille?
Tu en répondras à notre seigneur alors, vieille diablesse, dit l'homme en se retirant. Il laissa Rebecca en la société de la vieille femme, à qui elle avait été ainsi involontairement imposée.
Quelle action infernale ont-ils méditée cette fois ?
Dit la vieille sorcière marmottant entre ses dents, tout en jetant un regard méchant et oblique à Rebecca.
Mais il est facile de le deviner. Des yeux brillants, des boucles noires et une peau blanche comme du papier avant que le prêtre l'éteigne son onguent noir. Oui, il est facile de deviner pourquoi on l'envoie à cette tourelle isolée, d'où un cri ne serait pas plus entendu que s'il sortait d'un abîme à 500 brasses sous terre. Tu auras les hiboux pour voisins, ma belle, et leurs cris seront tout aussi entendus et tout aussi écoutés que les tiens.
Et c'est une étrangère aussi, ajouta-t-elle en voyant les vêtements et le turban de Rebecca.
De quel pays es-tu, sarrasine ou égyptienne? Pourquoi ne réponds-tu pas? Tu sais pleurer, ne sais-tu pas parler?
Ne vous fâchez pas, bonne mère, dit Rebecca. N'en dis pas davantage, interrompit Urfried. On reconnaît un renard à sa queue et une juive à sa langue.
Pour l'amour du ciel, reprit Rebecca, dites-moi ce que je dois attendre après la violence qui m'a entraînée ici. Est-ce ma vie qu'on veut sacrifier pour me faire expier ma religion? J'en déposerai joyeusement le fardeau.
Ta vie, ma mignonne, répondit la sibylle. Quel plaisir aurait-il à te prendre la vie? Crois-moi, ta vie ne court aucun danger. Tu auras le traitement qui fut autrefois jugé assez bon pour une noble fille saxonne. Et une juive comme toi va-t-elle se plaindre parce qu'elle n'en aura pas un meilleur? Regarde-moi. J'ai été aussi jeune et deux fois aussi belle que toi, lorsque Front de Bœuf, père de ce Réginald, et ses Normands ont fait l'assaut de ce château. Mon père et ses sept fils défendirent leur patrimoine d'étage en étage, de chambre en chambre. Il n'y a pas une salle, pas un degré de l'escalier qui n'ait été teint de leur sang. Ils moururent tous. Et avant que leur corps fût refroidi, avant que leur sang fût séché, j'étais devenue la proie du vainqueur et l'objet de son mépris.
N'y a-t-il pas de secours à espérer? N'y a-t-il pas quelque moyen de s'échapper?
Dit Rebecca.
Richement, oui, richement, je récompenserai ton aide.
N'y songe pas, dit la sorcière. Pour sortir d'ici, il n'y a que les portes de la mort. Et ce n'est que tard, trop tard, ajouta-t-elle en secouant sa tête grise, que ces portes s'ouvrent devant nous. Mais c'est une consolation de penser que nous laissons derrière nous, sur la terre, des êtres qui seront misérables comme nous-mêmes l'avons été. Adieu, juive. Juive ou chrétienne, ton sort sera le même, car tu as affaire à des hommes qui ne connaissent ni scrupules ni pitié. Adieu, te dis-je. Ta tâche n'est pas encore finie.
Arrête, arrête, pour l'amour du ciel, dit Rebecca. Reste, quand ce serait pour me maudire et m'humilier. Ta présence est encore une sorte de protection.
La présence de la Mère de Dieu ne serait pas une protection, répondit la vieille mégère.
Elle est là,
dit-elle en indiquant une image grossière de la Vierge Marie. Vois si elle peut détourner le sort qui t'attend. En disant ces mots, elle quitta la chambre, les traits contractés par une espèce de rire moqueur qui lui donna un aspect encore plus hideux que de coutume. Elle ferma la porte à clef derrière elle, et Rebecca l'entendit maudire à chaque pas les marches de l'escalier de la tourelle qu'elle descendait lentement et avec peine. Rebecca devait donc s'attendre à un sort encore plus terrible que celui réservé à Rowena. Car quelle probabilité y avait-il qu'on témoignât des égards ou de la retenue envers une fille de sa race opprimée, bien qu'on eût pu en conserver l'ombre envers une héritière saxonne? Cependant, la juive avait encore cet avantage qu'elle était plus préparée par ses habitudes de réflexion et par sa force d'âme naturelle à lutter contre le danger auquel elle allait se trouver en proie. D'un caractère ferme et observateur, même depuis l'âge le plus tendre, ni la pompe ni la richesse qu'elle voyait régner dans la maison de son père, ni celle qu'elle rencontrait dans les autres maisons de riches Hébreux, n'avaient pu l'aveugler sur les conditions précaires de leur opulence. Comme Damoclès dans son célèbre banquet, Rebecca voyait toujours, au milieu de ce luxe éblouissant, l'épée suspendue par un cheveu sur la tête de son peuple. Ces réflexions avaient adouci et ramené à un jugement plus sain un caractère qui, dans d'autres circonstances, aurait pu devenir hautain, arrogant et opiniâtre. Rebecca avait appris, par l'exemple et par les injonctions de son père, à se comporter avec politesse envers tous ceux qui l'approchaient. Elle ne pouvait, à la vérité, imiter son extrême abjection, parce qu'elle ne se sentait pas cette bassesse d'esprit, et qu'elle n'avait point les continuelles appréhensions qui dictaient cette abjection à son père. Mais elle se comportait avec une humilité digne, en se soumettant aux mauvaises conditions dans lesquelles elle se trouvait placée comme fille d'une race méprisée. Elle avait la conscience qu'elle était digne d'un rang plus élevé que celui auquel le despotisme arbitraire des préjugés religieux lui permettait d'aspirer. Préparée de cette manière à rencontrer une fortune adverse, elle avait acquis la fermeté nécessaire à cette lutte. Sa situation présente exigeait toute sa présence d'esprit, elle l'appela donc à son aide. Son premier soin fut d'examiner l'appartement. Mais il n'offrait que peu d'espoir, soit d'évasion, soit de protection. Il ne contenait ni passage secret, ni trappe. Et hormis la porte d'entrée qui donnait sur l'édifice principal, le reste de la salle était entouré par les murs de la tourelle. La porte n'avait intérieurement ni verrou ni barre. L'unique fenêtre s'ouvrait sur une petite terrasse surmontant la tourelle et qui, de prime abord, donna à Rebecca quelque espoir de s'échapper. Mais elle vit bientôt qu'elle ne communiquait avec aucune partie des créneaux. Ce n'était qu'un balcon isolé, garantie comme à l'ordinaire par un parapet, avec des embrasures près desquelles quelques archers pouvaient se placer pour défendre la tourelle et protéger de leurs tirs ce côté du château. Il n'y avait donc d'autre ressource que le courage passif et une ferme confiance dans le ciel, naturels aux cœurs grands et généreux. Rebecca, bien qu'elle n'eût appris qu'à interpréter d'une manière erronée les promesses de l'Écriture envers le peuple choisi de Dieu, ne se trompait pas en supposant que leur présente était celle de leurs épreuves. Elle espérait que les enfants de Sion seraient un jour appelés indistinctement à partager le bonheur des gentils. En attendant, tout ce qui l'entourait annonçait que leur état actuel était celui du châtiment et de l'épreuve, et qu'il était de leur devoir spécial de souffrir sans murmurer. Élevée ainsi à se considérer comme la victime du malheur, Rebecca avait réfléchi de bonne heure sur sa propre condition et avait forcé son esprit à braver les dangers qu'elle devait probablement rencontrer. La prisonnière trembla toutefois et changea de couleur en entendant retentir un pas sur l'escalier. Et quand la porte de la tourelle, s'ouvrant lentement, laissa pénétrer un homme de grande taille, vêtu comme un de ces bandits à qui elle attribuait ses malheurs. Il ferma la porte derrière lui. Son bonnet, enfoncé jusqu'aux sourcils, cachait le haut de son visage, et il tenait son manteau de manière à en couvrir le reste. Ainsi déguisé, comme s'il eût médité l'exécution de quelque acte dont la seule pensée le rendait honteux, il se tenait debout devant la prisonnière alarmée. Cependant, bien que son aspect annonçât un bandit, il semblait incapable d'exprimer dans quel but il était venu, de sorte que Rebecca, faisant un effort sur elle-même, eut le temps d'aller au-devant de ses explications. Elle avait déjà ôté deux superbes bracelets et un collier qu'elle se hâta d'offrir à ce brigand supposé, pensant naturellement que le moyen de s'assurer de sa bonne volonté était de satisfaire sa cupidité. « Prenez ceci, dit-elle, brave ami, et pour l'amour de Dieu, ayez pitié de moi et de mon vieux père. Ces ornements sont d'une grande valeur. Cependant, ce n'est rien auprès de ce que mon père vous donnerait pour obtenir notre renvoi de ce château sain et sauf. »
Belle fleur de Palestine, répliqua le bandit. Ces perles viennent de l'Orient, mais elles le cèdent en blancheur à vos dents. Les diamants sont étincelants, mais ils ne peuvent se comparer à vos yeux. Et depuis que j'ai entrepris ce rude métier, j'ai fait vœu de préférer la beauté à la richesse.
Ne vous faites pas ce tort à vous-même, dit Rebecca. Prenez cette rançon, montrez de la miséricorde. Avec de l'or, vous pouvez acheter du plaisir. Nos maux ne vous apporteraient que des remords. Mon père satisfera volontiers au moindre de vos désirs. Et si vous agissez sagement, vous pourrez acheter avec ces dépouilles votre réhabilitation dans la société. Vous pourrez obtenir le pardon de vos erreurs passées et être placé pour l'avenir au-dessus du besoin d'en commettre de nouvelles.
« Bien parlé !» répliqua l'outlaw en français, trouvant probablement trop difficile de soutenir en saxon une conversation que Rebecca avait entamée en cette langue. « Mais sache, beau lys de la vallée de Baca, que ton père est déjà entre les mains d'un puissant alchimiste qui sait convertir en or et en argent jusqu'au bar rouillé d'une grille de cachot. Le vénérable Isaac est soumis à un alambic qui distillera de son corps tout ce qui est cher, sans qu'il soit besoin ou de mes prières ou de tes supplications. Quant à toi, il faudra que ta rançon soit payée en amour et en beauté, car je ne veux l'accepter en aucune autre monnaie.
« Tu n'es pas un outlaw, » dit Rebecca dans la même langue que celle dont il s'était servi. « Aucun outlaw n'eût refusé de pareilles offres. Dans ce pays, jamais un outlaw ne se sert de l'idiome dans lequel tu viens de me parler. Tu n'es pas un outlaw, mais un normand, noble peut-être par la naissance. » Oh, sois noble dans tes actions et jette au loin ce masque terrible de l'outrage et de la violence.
Et toi qui sais si bien deviner, dit Brillant de Bois-Guibert en laissant tomber le manteau de sa figure, tu n'es pas une vraie fille d'Israël, mais bien, sauf la jeunesse et la beauté, une magicienne d'Andorre. Non, je ne suis pas un outlaw, belle rose de Saharon. Et je suis un homme plus disposé à mettre des perles et des diamants sur ton cou et tes bras, auxquels ils conviennent si bien, qu'à te dépouiller de ces ornements.
« Que voudrais-tu de moi ? » dit Rebecca. « Sinon ma richesse. Il ne peut y avoir rien de commun entre nous. Tu es chrétien, je suis juive. Notre union serait contraire aux lois à la fois de l'Église et de la synagogue. »
« Elle le serait, en effet. » répliqua le templier en riant. « Épouser une juive ? Non, quand même ce serait la reine de Saba. Et sache, d'ailleurs, belle fille de Sion, que si le roi très chrétien m'offrait sa fille très chrétienne, avec le Languedoc pour douaire, je ne pourrais l'épouser. C'est contre mon vœu d'aimer une jeune fille autrement que par amour, comme je veux t'aimer. Je suis templier, regarde la croix de mon ordre saint.
« Oses-tu y faire appel ? » dit Rebecca. « Dans un pareil moment ?»«
Et si je le fais, » reprit le templier, « cela ne te regarde pas, toi qui ne crois pas en ce signe béni de notre salut. »«
Je crois ce que mes pères m'ont appris à croire, » dit Rebecca, « et que Dieu me pardonne si ma croyance est erronée. Mais vous, sire chevalier, quelle est la vôtre ? Vous qui faites appel sans scrupule à ce que vous croyez de plus saint, au moment même où vous allez transgresser le plus solennel de vos vœux comme chevalier et comme religieux.
C'est bien et gravement prêché, ô fille de Syrah, répondit le templier. Mais, ô douce Ecclésiastica, tes préjugés juifs sont étroits et t'empêchent de comprendre nos grands privilèges. Le mariage serait un crime irrémissible de la part d'un templier. Mais les petites folies que je puis commettre seront vite absoutes à la prochaine assemblée de notre ordre. Le plus sage des monarques est son père lui-même, dont les exemples, tu en conviendras, ont bien quelque poids. n'ont jamais obtenu de plus larges privilèges que ceux que, nous autres, pauvres soldats du temple de Sion, nous avons gagnés par notre zèle à le défendre. Les protecteurs du temple de Salomon peuvent bien réclamer quelque indulgence, d'après l'exemple de Salomon lui-même.
« Si tu ne lis l'Écriture, dit la Juive, et l'histoire des saints hommes, qu'afin de justifier ta conduite luxurieuse et ton libertinage, tu es aussi criminel que celui qui extrait du poison des herbes les plus salutaires et les plus utiles. »
Les yeux du Templier flamboyèrent à ce reproche.
« Écoute, dit-il, Rebecca, je t'ai jusqu'ici parlé doucement. Mais maintenant, mon langage sera celui d'un vainqueur. Tu es la captive de mon arc et de ma lance, sujette à ma volonté par les lois de toutes les nations, et je ne veux rabattre rien de mon droit. Je n'hésiterai pas à obtenir par la violence ce que tu refuses aux prières ou à la nécessité.
« Arrière !» dit Rebecca. « Arrière ! Et écoute-moi avant de commettre un péché si mortel. » Tu pourras, à la vérité, soumettre mes forces, car Dieu a créé la femme faible et a confié sa défense à la générosité de l'homme. Mais je proclamerai ta vilenie, Templier, d'un bout de l'Europe à l'autre. Je devrai à la superstition de tes confrères ce que leur compassion pourrait me refuser. Tous les chapitres de ton ordre apprendront que, comme un hérétique, tu as péché avec une juive. Ceux qui ne trembleraient pas devant ton crime te jugeront maudit pour avoir déshonoré la croix que tu portes, au point d'aimer une fille de ma nation.
« Tu as l'esprit subtil, belle juive, » répliqua le Templier, qui ne pouvait se dissimuler qu'elle disait la vérité, et que les règles de son ordre condamnaient très rigidement une intrigue semblable à celle qu'il poursuivait, et que même en quelques occasions, la dégradation en avait été la suite.
« Tu as l'esprit subtil, » continua-t-il, « mais ta voix sera bien forte si tes plaintes sont entendues au-delà des murs de fer de ce château. Dans ces murailles, les murmures, les lamentations, les appels à la justice et les cris de la souffrance meurent tous silencieusement. Il n'y a qu'une chose qui puisse te sauver, Rebecca. Soumets-toi à ton sort. » Embrasse notre religion, et tu sortiras d'ici avec tant d'éclat que beaucoup de dames normandes le céderont aussi bien en luxe qu'en beauté à la favorite de la meilleure lance parmi les défenseurs du temple.
Me soumettre à mon sort, dit Rebecca. Et juste ciel, à quel sort? Embrasser ta religion? Et quelle est cette religion qui recèle en son sein un pareil monstre? Toi, la meilleure lance des Templiers? « Lâche chevalier, prêtre parjure, je te crache au visage et te défie. Le Dieu de la promesse d'Abraham a ouvert à sa fille un chemin de salut, même pour sortir de cet abîme d'infamie. » À ces mots, elle ouvrit la fenêtre en treillis qui donnait sur le balcon, et un moment après, elle se tenait sur le bord même du parapet, suspendue au-dessus de l'immense profondeur de l'abîme. N'étant pas préparée à cet effort du désespoir, car jusque-là elle s'était tenue complètement immobile, Bois-Guilbert n'eut le temps ni de l'arrêter ni de prévenir son dessein. Quand il voulut s'avancer, elle s'écria « Reste où tu es, orgueilleux Templier, ou avance à ton choix. Encore un pied de plus et je me précipite dans l'abîme. Mon corps sera écrasé et brisé sur les dalles de la grande cour, jusqu'à perdre toute forme humaine. » avant qu'il devienne la victime de ta brutalité. » Et elle croisa ses mains en les tendant vers le ciel, comme si elle implorait sa miséricorde pour son âme avant de s'élancer dans l'abîme. Le Templier hésita, et son audace, qui n'avait jamais cédé à la pitié ou à la détresse, fléchit devant l'admiration qu'il ressentit pour un si grand courage. « Descends, dit-il, fille téméraire. « Je jure par la terre, par la mer et par le ciel que je ne veux te faire aucune insulte. »«
Je ne me fierai pas à toi, Templier, » dit Rebecca. « Tu m'as appris à apprécier les vertus de ton ordre.
La prochaine préceptorerie t'accorderait l'annulation d'un serment qui n'intéressait que l'honneur ou le déshonneur d'une misérable juive.
« Tu es injuste envers moi !» s'écria le Templier avec ferveur. « Je te jure par le nom que je porte, par la croix tracée sur ma poitrine, par l'épée suspendue à mon côté, par l'ancien blason de mes pères, que je ne te ferai aucun mal. Arrête ! Et si ce n'est pas pour toi, du moins pour ton père, je serai son ami, et dans ce château, il aura besoin d'un ami puissant. »
« Hélas, dit Rebecca, je ne le sais que trop bien, mais puis-je me fier à toi ?
Que mes armes soient renversées et mon nom déshonoré, reprit Brian de Bois-Guilbert, si tu as encore lieu de te plaindre de moi. J'ai violé plus d'une loi, plus d'un commandement, mais jamais ma parole.
Je veux bien me fier à toi, dit Rebecca, mais dans une faible limite.
Et elle descendit du bord du parapet, tout en restant debout près d'une des embrasures du mâchicoulis, comme on les appelait alors.
Ici, dit-elle, je reste sans bouger. Toi, reste où tu es. Et si tu tentes de diminuer d'un seul pas la distance qui nous sépare, tu verras que la juive aime mieux confier son âme à Dieu que son honneur à un templier. »
Pendant que Rebecca parlait ainsi, sa ferme résolution, qui s'alliait si bien avec la beauté expressive de son visage, prêta à ses traits, à son maintien, une dignité qui l'élevait au-dessus d'une mortelle. Son regard ne faiblit pas. Sa joue ne blanchit pas sous la crainte d'un sort si soudain et si horrible. Au contraire, la pensée qu'elle pouvait commander à ce sort, et qu'il ne dépendait que d'elle de se soustraire à l'infamie par la mort, donna un incarnat encore plus vif à son teint et un éclat encore plus brillant à son œil. Bois-Guilbert, fier et résolu lui-même, pensa n'avoir jamais vu une beauté si animée et si majestueuse.
« Que la paix soit entre nous, Rebecca, » dit-il. « La paix, si tu veux, » répondit Rebecca, « mais avec cet espace pour nous séparer. »«
Tu n'as plus besoin de me craindre, » dit Bois-Guilbert.
« Je ne te crains pas, » répliqua-t-elle. Grâce à celui qui a donné à cette tour une si grande élévation au-dessus de l'abîme qu'on ne saurait en tomber sans perdre la vie. Grâce à lui et au Dieu d'Isaac, je ne te crains pas.
« Tu es injuste envers moi, » dit le Templier. « Par la terre, la mer et le ciel, tu es injuste. Je ne suis pas habituellement tel que tu m'as vu, dur, égoïste et implacable. C'est une femme qui m'a appris la cruauté. Et je suis cruelle envers les femmes, mais je ne saurais l'être envers une fille telle que toi. Écoute, Rebecca, jamais chevalier n'a pris la lance en main avec un cœur plus dévoué à la dame de ses pensées que Brian de Bois-Guilbert. C'était la fille d'un petit baron qui ne possédait pour tout domaine qu'une tour en ruine, un vignoble improductif et quelques lieux de landes arides près de Bordeaux. Le nom de celle que j'aimais était connu partout où les beaux faits d'armes s'accomplissaient, connu plus au loin que celui de maintes dames ayant une province pour douaire. Oui, continua-t-il en parcourant la petite plateforme avec une vivacité qui pouvait faire supposer qu'il avait oublié la présence de Rebecca. Oui, mes actions, mes dangers, mon sang grandirent le nom d'Adélaïde de Mortemart, et le rendirent célèbre depuis la cour de Castille jusqu'à celle de Byzance. Mais quelle fut ma récompense? Quand je revins, avec une gloire si chèrement payée, au prix de tant de fatigue et de sang, je la trouvai mariée à un petit seigneur gascon dont le nom ne fut jamais cité au-delà des limites de son mesquin domaine. Je l'aimais véritablement, et j'ai châtié amèrement son manque de foi. Mais ma vengeance est retombée sur moi. Depuis ce jour, je me suis détaché de la vie et de ses liens. Mon âge viril n'a pas connu le toit domestique, n'a pas connu les consolations d'une femme aimante. Ma vieillesse ne connaîtra pas les douceurs du foyer. Mon tombeau sera solitaire, et je ne laisserai pas d'enfant pour me survivre et pour porter l'ancien nom de Bois-Guilbert.
Au pied de mon supérieur, j'ai déposé le droit de mon libre arbitre, le privilège de mon indépendance. Le Templier, qui est un cerf en tout, sauf le nom, ne peut posséder ni terre ni bien. Il ne vit, n'agit et ne respire que par la volonté et le bon plaisir d'un autre. « Hélas !» dit Rebecca, « quels avantages peuvent servir de comparaison à un sacrifice aussi absolu ?»«
Le pouvoir de la vengeance, Rebecca, » dit le Templier, « et les perspectives de l'ambition. »«
Mauvaise récompense, » dit Rebecca, « pour remplacer les droits les plus chers à l'humanité. »
« Ne dites pas cela, jeune fille, » répondit le Templier. « La vengeance est le plaisir des dieux, et s'ils se la sont réservés, comme nous le disent les prêtres, c'est parce qu'ils la regardent comme une jouissance trop précieuse pour de simples mortels. Et puis, l'ambition, c'est une passion qui pourrait troubler le repos même du ciel. »
Il s'arrêta un moment, puis il ajouta. « Rebecca, celle qui a pu préférer la mort au déshonneur doit avoir une âme fière et puissante. Il faut que tu m'appartiennes. Ne tressaille pas, ajouta-t-il, ce sera de ton plein gré et aux conditions que tu m'imposeras. Il faut que tu consentes à partager avec moi des espérances plus étendues que celles qui peuvent naître sur le trône d'un monarque. Écoute-moi avant de me répondre et juge avant de refuser. Le Templier perd, comme tu l'as dit, ses droits sociaux, son libre arbitre. Mais il fait partie et devient membre d'un corps puissant, devant lequel les trônes commencent déjà à trembler. Comme la goutte de pluie qui se mêle à la mer devient une portion de cet océan irrésistible qui mine les rochers et engloutit les flottes, cette ligue formidable est aussi une mer immense. Je ne suis pas un membre ordinaire de cet ordre puissant. Je suis déjà l'un des principaux commandeurs. Et peut-être, un jour, aurai-je le bâton de grand maître. Ce n'est pas assez que les pauvres soldats du temple posent leurs pieds sur le cou des rois. Le moine aux sandales de chanvre en fait autant. Mais notre pied chaussé de fer montera sur leur trône. Notre gantelet leur arrachera les sceptres. Le règne du Messie, que vous attendez vainement, ne promet pas une si grande puissance à vos tribus dispersées que mon ambition n'envoie se dérouler devant elles. Je n'ai cherché qu'un courage égal au mien pour faire partager ce pouvoir, et je l'ai trouvé en toi. « Est-ce à une fille de mon peuple que tu parles ainsi ?» demanda Rebecca. « Songe donc !»«
Ne me réponds pas, » reprit le Templier, en alléguant la différence de nos cultes.
« Dans nos conclaves secrets, nous nous moquons des contes d'enfants. Ne pense pas que nous soyons restés longtemps aveuglés sur la folie idiote de nos fondateurs, qui abjurèrent toutes les délices de la vie pour le plaisir de mourir martyrs de la faim, de la soif et de la peste, et par le fer des sauvages, tandis qu'ils s'efforçaient en vain de défendre un désert aride qui n'avait de valeur qu'aux yeux de la superstition. » Notre ordre eut bientôt adopté des vues plus larges et plus hardies, et découvrit une meilleure compensation à ses sacrifices. Nos immenses possessions dans tous les empires de l'Europe, notre haute réputation militaire, qui fait que la fleur de la chevalerie dans tous les climats chrétiens s'est rangée sous nos bannières, voilà le surmoyen d'atteindre un but que nos pieux fondateurs n'ont jamais rêvé, et qui est également caché à ces lâches esprits qui entrent dans notre ordre avec les anciens principes, et dont la superstition fait notre instrument. Mais c'est assez écarté le voile de nos mystères. Le son de ce corps annonce un événement qui pourrait réclamer ma présence. Songe à ce que je t'ai dit. Adieu. Je ne te dis pas que j'implore le pardon de la violence dont je t'avais menacé. C'était nécessaire pour le déploiement de ton caractère. On ne reconnaît l'or qu'à l'application de la pierre de touche. Je reviendrai bientôt pour conférer avec toi. » Il rentra dans la chambre de la tourelle et descendit l'escalier, laissant Rebecca peut-être moins épouvantée encore de la perspective de la mort à laquelle elle venait d'échapper que de l'ambition furieuse de cet homme audacieux et méchant, au pouvoir de qui elle se trouvait malheureusement tombée. Quand elle rentra dans la chambre de la tourelle, son premier devoir fut de rendre grâce au dieu de Jacob pour la protection qu'il lui avait accordée et d'implorer la continuation de cette protection pour elle et pour son père. Un autre nom se glissa dans sa prière. C'était celui du chrétien blessé que le sort avait placé entre les mains d'hommes sanguinaires, ses ennemis déclarés. Son cœur, à la vérité, lui reprocha d'avoir mêlé dans ses dévotions le souvenir d'un homme avec lequel son sort ne pouvait pas être lié, d'un Nazaréen, d'un ennemi de sa foi. Mais cette prière, elle l'avait déjà proférée, et tous les préjugés étroits de sa secte ne pouvaient pas obliger Rebecca à la rétracter.